Voilà, donc vous venez d'écouter Un monde vécu de Yves Robic et Claire Gatineau qui sont avec nous en studio pour nous parler de leur réalisation. Merci beaucoup d'être parmi nous. On va démarrer tout de suite avec des petites questions, non seulement sur le contenu de votre documentaire, et puis on s'interrogera aussi sur ce qui vous a motivé dans la forme, comment vous avez envisagé. D'abord, moi ce qui m'intéresserait de savoir, et peut-être le reste de nos auditeurs aussi, c'est pourquoi ce sujet-là ? Donc pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, dans votre parcours personnel ? Quel est le point de départ, votre interrogation ? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une nécessité pour vous que de réaliser ce documentaire ?
Au niveau de l'envie de travailler sur ce sujet, c'est vrai qu'une des... Un des sujets qui animait nos discussions à l'époque, on ne savait pas encore qu'on allait faire le documentaire, c'était toute la période de la crise des subprimes. Il y avait pas mal de sujets assez brûlants comme ça qui arrivaient dans l'actualité. Et c'est vrai qu'une des réflexions et une des remarques qu'on se faisait, c'est comment se fait-il qu'on se sente toujours tellement... empêchés, incapables, non suffisamment experts pour pouvoir faire quelque chose. Le sentiment d'incapacité. Et ça, on en parlait beaucoup, de se dire, mais c'est quand même incroyable ce sentiment, cette situation dans laquelle on se trouve, où finalement on ne peut que subir les choses. Ça c'est le... On avait déjà travaillé ensemble avec Claire à d'autres moments, donc on se rencontrait pour le travail. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup de cette question-là. Et puis un jour, c'est toi, Claire, qui a écouté une intervention de Patrick Vivray, c'était à la radio. Donc Patrick Vivray, qui est un philosophe, pour faire rapide, hein, qui est un philosophe français, et Claire l'avait entendu à la radio, parlant un peu de sa démarche, de son approche, et notamment, on va y revenir plus tard, sur cette question des culturels créatifs. Et à partir de là, on a commencé à s'intéresser à ce que faisait cette personne-là. Et ça nous a énormément parlé. Parce qu'effectivement, on s'est dit, tiens, effectivement, le sentiment que l'on ressent, finalement, il est partagé par d'autres. En même temps, on est quand même des gens qui sont plutôt reliés socialement, donc on n'est pas isolés. Hein. Mais malgré tout, avec Patrick Vivray, on trouvait une manière de formuler les choses, et puis après, une manière de pratiquement les mettre en œuvre, qui nous a énormément parlé. Et voilà. Et donc ça a été le contexte dans lequel on s'est dit, tiens, voilà, ça c'est quelque chose dont on voudrait parler. Et puis... il y avait un autre aspect plus, on va dire, plus, pas contextuel, mais de l'actualité entre nous, qui était le spectacle sur lequel toi, tu avais travaillé, Claire.
Peut-être que tu peux expliquer. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé sur un spectacle jeune public, où on était parti un petit peu sur la question des semences, en allant visiter des personnes qui contestaient tout ce système de brevetage et de prise de possession des semences et du vivant. Et donc, moi, j'avais fait pas mal de rencontres qu'on n'a pas pu utiliser directement dans le spectacle jeune public. Et j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose d'important à cet endroit-là, que les rencontres avaient été très fortes, que les personnalités étaient étonnantes. Et j'avais la sensation d'en avoir pas fait assez avec ces rencontres. Et aussi la sensation que cette histoire de semences, je ne sais pas pourquoi ça m'agitait tellement à l'époque, parce que c'était la question du vivant qui était accaparée par certains, et donc ça dépassait la question de l'agriculture, la question du jardinage, et qu'il y avait quelque chose qui semblait, après en avoir parlé avec Yves, ça semblait nous émouvoir plus que sur la question technique de l'agriculture et du jardinage. Il y avait quelque chose derrière qui semblait nous agiter très fort, sans que je pense au départ on savait exactement de quoi il était question. Et tout doucement, il y avait cette histoire de culturelle créative et d'écoute de Patrick Vivret. Il y avait ces deux pôles qui étaient très brûlants et on ne savait pas au départ exactement comment ça s'articulait. Et d'une certaine manière, le chemin du documentaire, c'est comment est-ce qu'on a compris comment ces deux choses avaient un lien, s'articulaient et nous mettaient nous-mêmes en mouvement, j'ai l'impression.
Et surtout que donc dans le documentaire, on parle beaucoup de Patrick Vivret parce qu'on le rencontre à un moment donné et qu'il est aussi animateur et moteur de toute une série de mouvements très concrets qui se passent notamment en France. Mais c'est vrai qu'avec d'autres auteurs comme André Gorz, là aussi, en commençant à tirer le fil, nous, on se retrouvait aussi beaucoup dans toute une série de questions qui ont à voir avec la dépossession. C'est-à-dire comment, à un moment donné, une société se structure en dépossédant certains en dépossédant et en désappropriant certains au détriment de l'autre. Et qu'il y a des tendances fortes au niveau sociétal qui conduisent à désapproprier les gens de toute une série de choses qui soient à la fois culturelles, en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de confiance en soi. Et ça, c'est des questionnements voilà, qui nous intéressaient extrêmement fort. Et voilà, après, les choses se sont agrégées. Petite parenthèse, c'est-à-dire pourquoi je dis ça, c'est qu'effectivement, on va y revenir tout à l'heure, on n'est pas parti avec l'idée de « on a un sujet ».
C'est ça, oui.
Voilà.
Il y a quelque chose qui vous a chatouillé,
qui nous a plus que chatouillé. C'est-à-dire qui nous a mis totalement en mouvement et de se dire, ces personnes qui, par exemple, disent la législation des semences, on s'y pliera pas parce qu'il s'agit d'une chose beaucoup plus fondamentale que ça, il s'agit du vivant.
Au fur et à mesure, ouais.
Ces personnes, c'est vrai que nous, voilà, après nous, ça nous a fort renvoyé à nous-mêmes, mais...
Et c'est vrai que d'un point de vue, si tout à l'heure on parle des questions formelles au niveau du documentaire, la question du sujet, quand on fait un travail documentaire, elle est intéressante. Est-ce que finalement on part parce qu'on a un sujet, ou est-ce qu'on part et le sujet se dessine au fur et à mesure. Enfin, d'un point de vue documentaire, je trouve que c'est une démarche, une réflexion, moi, on est là-dessus assez d'accord, qui nous semble intéressante.
Et du coup, est-ce que votre documentaire a évolué au fur et à mesure des rencontres que vous faisiez aussi? Parce que le documentaire, on rencontre beaucoup de personnes. Vous vous centrez sur les personnes, sur les rencontres.
Mais je crois que dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a la question du subside aussi. C'est-à-dire qu'on a rendu un dossier en expliquant ce qu'on voulait faire, qui on voulait rencontrer. Et donc, quand on s'est mis au travail, on a revisité toutes ces questions. Mais dans un premier temps, on a quand même pas mal suivi une liste de personnes à rencontrer. Et au bout d'un moment, qui travaillaient sur les semences. Puis au bout d'un moment, je crois que ça a calé un peu. Il y a eu une forme de nervosité aussi parce qu'il y avait une autre question qui semblait en fait poussée par derrière, qui était la question de la liberté, la question de la liberté, de notre liberté. Et du coup, ça a explosé un petit peu le cadre des semences. Ça a ouvert quand même vers d'autres types de rencontres qu'on n'avait pas du tout anticipées. C'est peut-être ça le deuxième mouvement aussi de la radio, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on retourne dans la ville, on rencontre des gens qui ne sont plus nécessairement des jardiniers, qui sont plus nécessairement concernés par les semences, et ça se ramifie autrement.
Et de ce point de vue-là, c'était pas uniquement, c'est-à-dire qu'en même temps, le travail qu'on avait fait au moment de la mise en production du documentaire, bon, c'était un travail de réflexion qu'on faisait, mais qui n'était pas encore complètement abouti. Il allait falloir qu'on se mette à tourner, à enregistrer pour arriver à continuer à avancer. Donc du coup, c'est vrai qu'on suivait, au départ, on a suivi les premiers jalons qu'on avait, mais pas tant dans l'idée de suivre un cahier des charges, mais plutôt parce que pour l'instant, c'était les jalons qu'on avait. Et qu'effectivement, on a passé aussi beaucoup de temps pendant le documentaire à essayer de cerner ce qui semblait pouvoir l'être, enfin, autant que possible.
Et là, vous nous parlez déjà finalement du processus de création en lui-même. Apparemment, c'est justement très lié, votre cheminement. Il n'est pas avant, comme tu le disais, on ne fait pas un documentaire parce qu'on a un sujet. Il y a quelque chose qui se travaille au fur et à mesure, qui se dessine. Moi, ça m'évoque l'image d'une rivière qui cherche ou qui trouve finalement son chemin. Peut-être qu'on va laisser cette forme pour après. Honte à moi, je n'ai pas fait les présentations correctement. Il y a Carole qui est avec nous, qui peut...
Charlotte, voilà. Bonjour, bonsoir.
Charlotte.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Claire.
Et Arthur bonsoir, qui est à la technique. Je suis désolée, j'ai eu une journée très chargée. Donc, au niveau du contenu, moi, ce qui m'a interpellée, c'est que à la lecture finalement de ce que vous annoncez sur la courte présentation de ce qu'on va entendre, ce sont des personnes qui finalement s'inscrivent contre des modes de production industriels, en tout cas dans le domaine alimentaire, et finalement à l'écoute ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a quelque chose de transversal, finalement toute une organisation de la société, et ce que j'ai entendu c'est effectivement un grand cri de liberté. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, effectivement, c'est ça. Donc, plusieurs thématiques qui se croisent. On sent un peu le cheminement dans votre documentaire. Et puis, ce cri révolution, allons dans la rue.
Voilà, c'est ça. Voilà. Dans la rue ou pas. Enfin, c'est là.
Ou pas, voilà.
Il y avait les deux. Il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent. Ouais.
Est-ce que, dans ce cheminement que vous décriviez, vous avez-vous ressenti... À un moment donné, dans ce documentaire, dans votre documentaire, on entend finalement, c'est quand on sera acculé que les gens vont pouvoir réagir. C'est vraiment acculé, quand ils sont devant une nécessité absolue de changer les choses, que c'est possible. Avant, en tout cas, on a l'impression que c'est beaucoup de recherche, allez, j'ai envie de dire, de trituration intellectuelle, de souffrance aussi. Mais le changement, il est vraiment laborieux, difficile à amener. Est-ce qu'il est possible à amener? On entendait à un moment donné quelqu'un qui disait, ben non, en fait, on peut juste préparer à éviter le pire.
Oui, c'est ce que dit... Il y a un personnage qui s'appelle Denis Parkinson, donc on n'entend pas les noms des personnages. Peut-être ça, on en reparlera aussi. En gros, qui est un biologiste et qui fait le lien entre... la question de la biodiversité dans la nature et puis la question de la biodiversité de pensée, de mode d'action, de proposition. Et c'est vrai que lui ou un personnage de Claude, un autre des personnages, disent à un moment donné, il va peut-être y avoir un choc. Et s'il y a un choc climatique, par exemple, dans une forêt et qu'il n'y a que des épicéas, si l'épicéa disparaît à cause de ce choc climatique, alors toute vie disparaît. Mais s'il y avait une dizaine d'espèces d'arbres, alors peut-être l'épicéa disparaît, et un ou deux, une autre espèce disparaissent aussi, mais il en reste sept encore qui peuvent réagir. Et c'est un petit peu ce que pensent certaines personnes dans ce documentaire que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que tout ce qui se construit aujourd'hui comme possibilité alternative, comme mode de pensée différent, peuvent paraître aujourd'hui pas forcément indispensables. Mais dans un système, dans un moment de choc, peut-être que certaines de ces propositions pourront survivre. Par exemple, les monnaies alternatives. S'il y a un prochain énorme krach financier, on dit aujourd'hui que les États n'auront plus la possibilité de réagir comme elles l'ont fait, qu'on sera peut-être en carence d'argent. Les monnaies alternatives, elles ne s'effondreront pas puisqu'elles reposent sur des richesses réelles. Donc aujourd'hui, on peut se dire, les monnaies alternatives, c'est sympa, c'est mignon, c'est gentil et tout, mais c'est pas seulement ça, parce que s'il y a vraiment un vrai krach, elles peuvent prendre le relais.
Oui, c'est ça. Plus il y aura de diversité dans un système, plus il y aura de possibilités d'adaptation quand le système sera perturbé.
Et en ça, ce qui est très intéressant pour nous dans les rencontres, c'est qu'il y a eu des croisements entre des pensées de biologistes et des pensées de gens qui observent la multiplicité des propositions alternatives aujourd'hui.
Donc en fait, c'est semer aussi bien des idées que des processus pour que le pire n'arrive pas. Moi, on a un peu l'impression que c'est une dimension d'action, désespérée, quoi.
Ben justement, c'est là où je trouve que ce n'est pas uniquement désespérée. C'est-à-dire, c'est faire le constat de la situation est sérieuse, à plein de, sous plein d'aspects, on peut objectivement se dire que la situation est sérieuse, mais en contrepartie, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut pas dire ce qui va arriver. On peut présager le pire, on peut présager des catastrophes, mais fondamentalement, personne ne peut le dire. L'improbable est possible. Et du coup, la démarche qui est de se dire, eh ben, voilà, peut-être qu'il faut, pour que les gens, de manière massive, se mettent en mouvement, il faut attendre qu'il y ait un véritable crash, c'est une chose. Mais on peut, dès à présent, c'est ce que tu disais par rapport à la biodiversité, dès à présent, développer des alternatives. Certaines dureront, certaines ne dureront pas. Et voilà, elles seront le temps venu. Elles pourront être au service d'eux. Et ça, je trouve que ça change un peu le... Je trouve que ça permet de faire un pas de côté par rapport à quelque chose qui serait purement une pensée nihiliste ou catastrophiste. Et ça, je trouve ça intéressant. Et je lisais récemment un bouquin sur la question des utopies et de se dire, finalement, l'idée n'est pas tellement... Alors qu'on aurait pu penser... On est tenté de penser à l'utopie comme voilà, l'objectif, il est là-bas, c'est l'île, elle est là-bas, et puis on va y aller, ça va être le chemin, et de se dire maintenant, cette vision-là de l'utopie, finalement, il faut peut-être la reconsidérer, et que maintenant, plutôt que de parler d'une île sur laquelle on va essayer d'aller, de parler plutôt d'archipel d'îles, et de se dire, ben voilà, il y a toutes ces choses-là, alors bon, ça se tisse, plus ou moins silencieusement, mais finalement, ça permet de reconsidérer le sentiment premier qu'on a de se dire, ça va être la catastrophe. Et on est... Je trouve que là, il y a quelque chose qui est... Enfin, moi, en tout cas, mon point de vue a changé par rapport au risque qu'on sent bien pointé, mais de voir toutes ces approches, moi, personnellement, ça a réorienté mon regard et le regard que je porte là-dessus, sur quoi faire et est-ce bien utile.
Voilà. Il y a peut-être une nouvelle forme de conscience collective qui émerge aussi. C'est quand même pas anodin que ce soit justement... comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui touche au vivant, qu'il y ait des mouvements ou des embryons de mouvements. C'est vrai que la notion même de mouvement était en question aussi dans votre documentaire. Il y a la symbolique aussi de la semence. C'est un enjeu qui est important non seulement par rapport à une question de liberté et de vie, quoi. Donc, quand je dis sauver les meubles, en même temps, c'est semer des graines pour que des possibles puissent encore advenir. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait justement une conscience d'appartenir ou de se diriger dans un même sens chez toutes les personnes que vous avez rencontrées et qui finalement vont dans le même sens?
Moi, je pense qu'il y a la notion de conscience qui est assez vive, mais je dirais assez globalement. Ce qui est, pour moi, ce qui change peut-être, c'est la manière de réagir et de trouver des manières d'agir. C'est-à-dire, il y a la question de la catastrophe, il y a la question de la militance. Ça soulève plein de questions. Et ce qui était assez touchant dans toutes ces rencontres et ce que ça nous a aussi renvoyé à nous-mêmes, c'est que... être militant, c'est pas forcément être comme nos anciens qui étaient des artistes engagés de telle et de telle manière. Être militant, ça peut être aussi simplement à un moment donné, je sais pas, travailler dans un potager, tout simplement. Enfin, c'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés, c'est des gens qui passaient par l'action, c'est-à-dire qui trouvaient des réponses à travers des actions et que ces actions se croisaient à des textes ou à des penseurs ou à des idées, mais que souvent l'un n'allait pas sans l'autre et que ces actions étaient très diverses. Elles pouvaient être à une toute petite échelle comme à une très grande. Et qu'en ça, il y avait une grande joie aussi, un grand plaisir à reprendre possession d'un certain nombre de choses et à se dire effectivement, il y a peut-être une catastrophe au bout. Mais on trouve une façon de se positionner en agissant d'une manière ou d'une autre.
Et par rapport à ce que tu disais sur le fait d'effectivement, est-ce qu'il y a une conscience? On sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et tu parlais aussi de la question d'aller dans le même sens. Et quelque chose qui émerge, ça... Combien de fois en rentrant de tournage, on s'est dit... Encore une fois, on est plutôt dans un milieu... social, enfin, impliqué sur toute une série de choses, et malgré ça, souvent on rentrait de tournage en se disant, oh, on pensait qu'on allait trouver des gens, impliqué, mais à ce point-là, la vivacité était quasiment chaque fois, on se disait, c'est quand même incroyable, à tel point de trouver tant et tant de choses, de gens qui concrètement se disent, on va faire ça et ça, et on va essayer de faire en sorte que les choses puissent bouger. Ça, c'est la première chose en termes de conscience. Donc là, je te rejoins complètement. Là où je te rejoins un petit peu moins, c'est sur la question d'aller dans le même sens. Et ça, ça a été le grand, pour moi aussi, une des évolutions importantes par rapport à tout ce voyage-là. C'est-à-dire, à un moment donné, ne pas rechercher absolument le même sens pour tout le monde. Mais plutôt que de penser en direction, penser plutôt en rhizome. Ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sent aussi beaucoup et qui est un changement qui n'est pas évident à intégrer, de se dire ce qui est important pour toi, pour te mettre en mouvement, n'est pas la même chose que pour moi. Et ça, je crois que c'est une... Je crois que la question de tous aller dans le même sens... Je suis pas certain que ce soit une nécessité.
C'est peut-être pas un objectif en soi.
Mais... Oui, voilà, tout à fait.
Mais c'est dit d'ailleurs à un moment donné aussi.
Oui, dans le témoignage d'un jeune homme, d'ailleurs, je crois que c'était à Lyon, une personne qui intervient en disant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un objectif commun?
Oui.
Si oui, lequel? Est-ce qu'on arrive à dire ce qui nous déplaît, ce qui nous gêne? Et finalement, comme tu dis.
Et c'est marrant comment juste à ce gars-là, répond à un autre gars d'une autre génération beaucoup plus radicale avec si tu sais pas ce que tu veux, alors on n'est pas... Mais c'est une vraie question et on discutait de ça en venant ici avec Claire. Il y a toute une série d'opérations et de mouvements qui sont en train de se mettre en place par rapport à la COP21 à Paris en novembre et décembre prochain. Beaucoup de gens essaient de s'organiser avec un objectif commun. La COP21, c'est la 21e conférence sur le climat qui va avoir lieu à Paris. Mmh. On va essayer de sortir de l'impasse. Le protocole de Kyoto a été rendu caduque suite à Stockholm. On n'est pas arrivé à le poursuivre. Et donc là, maintenant, il faut un peu réagir. Voilà. Tous les voyants sont au rouge ou à l'orange avant de commencer. Bref, il y a toute une série de mobilisations qui se mettent en place pour aller là-bas. Mais on voit bien, même au sein de groupes qui se réunissent pour aller dans le même sens... Justement, là, en l'occurrence, un sens chronologique et géographique, qui est Paris, combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Et effectivement, avec ces questions de génération aussi.
Oui, ça. Mmh. Et alors, je sais, Charlotte, qu'il y avait, toi, le sujet des jardins potagers, c'est actuel c'est aussi pour Bruxelles. Et juste pour faire peut-être un lien, par rapport à cette idée d'aller dans le même sens ou pas, il y avait aussi toute à un moment une jeune dame, je pense, qui dit qu'il faut il faut du collectif, mais dans le respect aussi de l'individu. Mmh. Et je trouve que cette petite phrase-là rejoint totalement ce que tu dis, l'image d'action ou en tout cas de mise en mouvement éventuelle, mais qui se fait finalement contact de proche en proche, l'image de rhizome que tu as évoqué, où chacun fait, c'est quand même faire dans son quotidien, à son échelle, et avec, d'après ce que vous dites, aussi la satisfaction de se dire, ok, là je fais quelque chose qui va dans le sens de ce que j'imagine être bon, ou nous prémunir pour l'avenir de ce qui pourrait être pire.
Je crois que le pire de tout ce qui pourrait nous arriver, c'est avoir la sensation de ne pouvoir rien faire, en fait. D'être face à quelque chose, une fatalité totale, et que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ça n'aura aucun impact. Je crois que c'est la chose la plus désespérante. Donc il y a des gens qui pensent que ce n'est pas suffisant de faire certaines petites actions et qu'il faut avoir une pensée plus globale. Mais je crois que...
Et d'où l'importance aussi de faire du lien, justement. C'est parfois un peu la base, l'idée de ces jardins collectifs, jardins potagers, de rencontrer les gens, de se mettre en action, c'est ça?
Oui, pour certains, je pense, oui. Celui dont on parle, un de ceux dont on parle, les deux, je pense. Mais il est question du jardin urbain à Bolenbeek, c'était une des missions premières du jardin. C'était d'abord le lien avant le jardinage, oui.
Il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a épatée, enfin, et en même temps interpellée, c'est le parallèle qui est fait avec le nazisme.
Ah oui.
Et avec, ah oui, ça c'était quand même fort, avec l'eugénisme, de dire, finalement, ça s'applique aujourd'hui à des êtres vivants, peut-être des végétaux, mais aussi des animaux. Et finalement, il existe à l'heure actuelle tous les outils technologiques et les ressources humaines pour les utiliser, pour contrôler tout ce qui est vivant, y compris les êtres humains.
Et je crois que ça s'intéresse. Oui, en plus, enfin, moi, je trouve là où c'est intéressant, c'est que c'est pas, ça n'arrive pas comme une sentence. On parle de processus, c'est pour ça qu'il parle de continuum. C'est Guy Kessler, la personne qui parle, c'est Guy Kessler, qui est un responsable du mouvement d'agriculture paysanne, et donc qui est quelqu'un très engagé sur la cause paysanne, la cause des semences, et très impliqué dans les réseaux politiques, on va dire, au niveau de l'Europe, et qui amène ça comme un continuum. Et effectivement, mais... quand tu lis Foucault, tu sens qu'il y a cette tendance-là de la société du contrôle, et que là, on est peut-être aussi à une phase d'accélération, et en même temps, je ne sais pas si on l'a gardé, ça, dans le documentaire, ce passage, une société qui meurt, c'est une société qui se raidit. On utilise la...
On n'a pas gardé ça.
Il avait tout un moment où il faisait le parallèle avec la libellule, ça a été...
La chrysalide, le papillon.
Il dit, il se passe un phénomène physique, biologique chez le papillon, au moment où il est dans son cocon, où il va y avoir la mue. Et il explique qu'en fait, les cellules, dans un premier temps, les cellules qui vont être responsables de la mutation ne sont pas acceptées par l'organisme du papillon. Et donc, il y a un phénomène de rigidification qui se produit. Et à un moment donné, le papillon va se rigidifier pour essayer de résister à ce mouvement. Et puis, pof, à un moment donné, le papillon est complètement raide et on passe à la mutation. Et on n'a pas gardé la séquence, mais où il expliquait, il donnait cette métaphore-là pour dire qu'effectivement, à son sens, et pour une part, moi je serais plutôt à partager ces idées, on est dans une accélération de processus autoritaires. Et qui effectivement, alors ça dit de manière abrupte, ça paraît un petit peu énorme de dire c'est la suite du nazisme qui se prolonge, mais si on regarde plus en nuance, on se rend compte qu'effectivement il y a un continuum en termes de société du contrôle qui se développe et qui s'accélère ces dernières années.
Et donc, juste pour finir la métaphore, ce qu'il dit, c'est que on a peut-être la sensation d'être dans des temps extrêmement rigides, mais l'hypothèse qu'il émet, c'est que c'est parfois au moment où tout semble le plus rigide qu'on est à l'aube d'une mutation et d'une mue, en fait. Donc lui, il dit,
et beaucoup reprennent, des gens qu'on a rencontrés, beaucoup reprennent cette idée-là, le fait que les périodes qui précèdent les basculements de société sont des périodes où tous les excès arrive. Voilà, il y a une espèce d'accélération dans le durcissement et dans les excès. Et lui disait ça, enfin il y en a d'autres qui...
D'autres aussi, on a entendu, même, de nouveau, c'était cette idée d'être acculé. Mais finalement, alors on entendait justement, il faut descendre dans la rue, il faut le faire collectivement. Est-ce qu'on a encore cette marge, est-ce qu'on a cette possibilité de descendre dans la rue, vu tous ces outils de contrôle? Parce que le parallèle, bon, il fallait le faire, c'est choquant. Enfin, moi, ça m'a interpellée. Mais c'est justement ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire, mais bon Dieu, oui. On n'imaginerait pas de faire un parallèle comme ça avec des idées nazies. Mais en même temps, tiens, y regarder de plus près, effectivement. Mmh. Effectivement, ce qu'on mange tous les jours, qu'on trouve dans les supermarchés, c'est le fruit d'une sélection génétique pensée d'une façon tout à fait, subjective par quelques-uns. Quoi.
C'est Vivry qui reprend l'image de la grenouille. Une grenouille... si on la trempe dans l'eau et qu'on fait chauffer l'eau, elle s'ébouillante, mais elle ne réagit pas. Elle s'adapte au fur et à mesure à la température, jusqu'à ce qu'elle meure, en fait. Et c'est cette question de dire, à un moment donné, comment un système peut se rigidifier quand on est dedans. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point on est allé loin dans, dans le...
Puisque, au niveau... Il y a tout le discours sécuritaire. Mmh. Attention, c'est dangereux de consommer des légumes ou d'utiliser des semences qui n'ont pas été contrôlées. C'est la même chose avec les caméras dans le métro. C'est la même chose avec les cartes simplement pour rentrer dans le métro. Enfin, donc, est-ce qu'il n'est pas déjà Fort tard pour se mettre en branle.
Ben c'est là où non, ça je, c'est justement ça je crois pas. Je crois que et c'est ça qui je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est toujours c'est-à-dire que ça impose de s'impliquer beaucoup plus directement dans la relation à l'autre. C'est ça, je crois qu'en fait, ça, c'est-à-dire que la possibilité d'agir, elle est toujours là, mais ça implique d'être beaucoup plus dans une relation première d'écoute vraie, puisqu'il y a toute une série de canaux qui se trouvent quelque part coincés. Prenons l'exemple de le TTIP, cette manifestation qui a eu lieu, et finalement, ils sont allés manifester devant des bureaux vides, parce que les gars avaient déplacé le calendrier. C'est dire c'est foutu en fait, on peut plus rien faire les gars, même quand on veut manifester les gens ils viennent plus. Bon, mais en même temps je suis pas sûr que cette situation veuille dire qu'il y a plus de solution. Je crois qu'on heureusement on a la possibilité de toujours, alors ça peut paraître un peu fleur bleue si on les sort du contexte, on a toujours la possibilité de travailler en direct. Et c'était ça aussi l'idée du documentaire.
Et puis de se réapproprier
les choses directement dans l'action et pas forcément en essayant tout de suite de se dire on va aller dans des sphères. Non, dans l'immédiat, le quotidien, ces gens qui font leurs graines à Moucron, c'est un travail de proximité, de rue. Voilà. Après ça s'est étendu. Donc c'est ça que je trouve qui est intéressant.
Oui. Mais on voit aussi où ça peut aller loin quand même. Hein. L'exploitant agricole qui est complètement dépendant des multinationales d'engrais, etc., qui ne sait plus à quoi servent les insectes, les oiseaux. Et il y a un témoignage très touchant, je trouve, d'un exploitant agricole qui retrouve son rôle de paysan avec un livre qu'il trouve dans le grenier de son grand-père. Oui. Mais on voit aussi tout le poids aussi de cette tradition agricole, hein, où il dit... Comment aller dire à un paysan de ne plus labourer son champ alors qu'il y a des concours dans les villages?
Oui, tout à fait.
C'est un poids, mais qui est très récent, en fait. On a rencontré, donc, il y a deux paysans. Marc, qui parle là, au début, qui est en Gaume et à Lyon, donc c'est... un petit trou de
Gérard.
Et en fait, l'un et l'autre se sont retrouvés à travailler avec leur père, et à être en conflit d'une certaine manière avec leur père, et à se référer finalement au grand-père. C'est le grand-père, le lien se faisait en sautant une génération. Et ce qu'on nous a beaucoup raconté, c'est que finalement cette agriculture industrielle est très récente, et elle vient de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, c'est ça.
Et donc,
oui.
voilà, il y a aussi tous les liens, enfin comment cette industrie guerrière s'est recyclée, et comment on est arrivé dans une agriculture industrielle, mais c'est pas si vieux que ça en termes de génération et en termes d'années. Donc revenir en arrière, c'est pas 200 ans ni 300 ans.
C'est pas si loin que ça.
C'est 50 ans. C'est 50 à 60 ans, c'est tout. C'est pas vieux du tout.
Oui, et alors il y a aussi ce que je trouvais intéressant qu'on entendait, enfin où on en discutait plutôt avant qu'on ouvre les micros. Tu disais, Yves, il y a une espèce d'entité justement qui n'a peut-être pas conscience d'elle-même en tant que telle, qui naît, qui existe d'une certaine manière. Et je trouvais que c'était fort intéressant, justement par rapport à tout ce qu'on dit de cette logique de contrôle, qui poussée à l'extrême finalement devient tellement abstraite que c'est difficile de prendre, abstraite ou tellement ridicule finalement que ça devient pas forcément évident de prendre le contre-pied. C'est ce que l'exemple que tu donnais du paysan qui dit « moi, j'essaye depuis des années de faire autrement, mais je suis tellement engluée dans ce système-là que j'arrive pas à en sortir. » Et en même temps, j'ai l'impression, à écouter votre documentaire, qu'il y a une espèce de c'est vraiment, alors c'est des images, des métaphores qui vont avec, évidemment, qui est une espèce de vie grouillante, comme ça, sur un terreau, qui fait qu'il est là, le contre-pied. C'est quitter justement cette espèce d'abstraction pour faire des choses, comme vous le disiez, très concrètes, travailler la terre, les choses qui nous font vivre au sens propre, directement, qui satisfont aussi des besoins primaires.
Oui, et qui renvoie justement, comme tu dis, cette image de quelque chose d'extrêmement foisonnant, qui renvoie aussi, tu parlais tout à l'heure de l'agriculteur qui finalement
ne sait plus, enfin, voilà, a perdu un savoir-faire, a perdu une expérience. Justement, le contraste avec, d'un côté, ce contrôle et ce côté foisonnant sur le terrain, pour moi, renvoie à cette question de la dépossession de la confiance en nous-mêmes, dans notre capacité à faire des choses, voilà, à agir sur les choses. Et je crois que, moi, il me semble qu'une grande partie, qui fait que cette communauté, finalement, reste invisible, c'est parce qu'on a énormément intégré la règle qui est « si tu n'es pas expert, tu ne peux pas parler. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas parler. Si, » voilà. Et je crois qu'on l'a intégré beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce qui fait que les gens font « non, mais ça va intéresser qui ?» Non, mais c'est quoi? Mais non, mais moi, ça, je fais ça dans mon coin. Mais quoi?
Ce serait ça, un des freins au changement qui était évoqué.
Ouais. Moi, beaucoup. Enfin, de plus en plus. Je pense que...
Oui, et quand il parlait de cette enquête qui a été faite il y a une quinzaine d'années, où ils interviewaient les gens des deux groupes de la population américaine qui correspondent aux deux partis politiques dominants, et que finalement, il y avait une masse de gens entre les deux. Qui était assez cohérent et qui formait une sorte de communauté. Cette communauté, elle représentait 12 à 25% de la population. Mais quand on demandait aux gens qui eux-mêmes s'estimaient être des gens alternatifs, vous pensez qu'il y a combien de pourcents de population qui vous ressemble? Ils disaient 3%. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être tellement différents.
Ils se sous-estimaient
en tant que force alternative, en fait, ou contre-pouvoir, ou force de proposition autre. Ils se pensaient, parce qu'il y a cette histoire, tu parlais de lien, de lieu de lien, il y a cette question de sensation d'isolement. Et donc, ce qui va à l'encontre de ça, oui, c'est tout ce qui crée le lien. Et donc, c'est la dernière partie aussi du documentaire qui se passe à Lyon. C'est-à-dire que c'est ce que Patrick Vivray appelle des espaces de reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire que c'est des endroits où les gens qui sont porteurs de pensées ou de pratiques alternatives se retrouvent, échangent et en ressortent assez ragaillardis parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de gens qui sont dans des dynamiques assez proches, même si les terrains et les domaines sont différents.
Et c'est une donnée vraiment importante, cette question de la reconnaissance mutuelle. À un moment donné, arriver à retrouver d'autres et se dire « Ah !» Il a cette phrase, on en a beaucoup rigolé parce qu'il l'utilise beaucoup, mais « Tu en es, nous en sommes ». Indépendamment du fait que tu vas faire une chose, je vais faire l'autre, l'idée n'est pas de se mettre d'accord pour aller dans la même direction, mais simplement de se dire tiens et vivrai après ramène avec d'autres. Hein. Mais comment il s'appelle le sociologue son nom va me revenir, qui finalement se met au centre la question de l'humanité, de la fraternité, de la mondialité. C'est-à-dire, c'est ça finalement qui nous rassemble. Alors après, que tu préfères faire telle chose ou telle chose, vendre des glaces ou tu vois, c'est pas. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. Et c'est vrai que ces espaces de reconnaissance, comme ils en font à Lyon, comme il y a le projet d'en faire à Bruxelles, c'est vrai que quand vous y allez, vous trouvez de tout, de tout. Et c'est fascinant.
Alors, pour peut-être quand même parler aussi de la fin, parce qu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui, justement, vous parliez du processus que c'est aussi cette réalisation, cette création. Vous êtes trouvé transformé au terme de ce travail. Combien de temps ça a duré?
C'est déjà une question. Ça, c'est la question pas raisonnable. En fait, on a travaillé 2012.
Mais bon.
Vous avez bien cogité.
Non, on a beaucoup enregistré.
Ouais. Et vous avez beaucoup voyagé.
Et on a beaucoup bougé.
La Belgique.
Oui, on l'a entendu.
Ce cheminement, quand vous cherchez les adresses, les lieux, etc., c'était quoi pour donner ce sentiment de voyage, d'arriver quelque part?
Parce que je pense que dans le travail, un des plaisirs aussi, c'était rencontrer les gens, ça c'est sûr, mais c'était aussi cette sensation de voyage, de paysage. Et puis je pense que c'était une manière de rendre compte de cette chose qu'on faisait mais qu'on ne pouvait pas forcément expliciter facilement, c'est-à-dire qu'on cherchait quelque chose, on fouillait, on se perdait, on retrouvait notre chemin, mais c'était pas un chemin très linéaire. Donc je pense que c'était une manière de parler de cette espèce de cheminement assez intuitif finalement.
Oui, c'est ça, qu'on voulait conserver. Mmh. C'est-à-dire conserver tout le temps le fait que notre documentaire, il y a cette phrase qui est de dire qu'en peinture, tu dis c'est un tableau de... C'est un tableau de Picasso, de Rembrandt. Tu dis pas c'est un tableau, une dame avec le nez tordu, et puis comme ça. Tu parles tout le temps d'où il vient le tableau. Et on se disait, c'est vrai que par rapport au documentaire, on était un peu dans cette dynamique-là. C'est pas un documentaire, c'est un documentaire de Claire Gatineau et Yves Robic. C'est pas un documentaire sur quelque chose. Mm-hmm. Ça, c'est une dynamique que je trouve intéressante. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voulait au maximum faire en sorte de pas se positionner voilà le sujet, donc vous allez avoir le pour, vous allez avoir le contre. On cherchait et on voulait partager ce sentiment, cette démarche de recherche qui nous semble être partageable et avec d'autres. Je crois qu'on est beaucoup aussi dans ce sens-là de se dire, tiens, finalement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne nomme pas les personnes. Parce qu'on
s'est dit... voilà, peut-être qu'on peut revenir là-dessus, justement. Donc, c'est quoi l'idée derrière ni les lieux d'ailleurs. Hein, on entend juste par. On entend le train.
Oui, c'est vrai.
Indirectement.
C'est vrai que la question des noms, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que si on commence à dire Guy Kessler, représentant des paysans, culture paysanne, etc. Alors on va se dire, et qui travaille au niveau des instances européennes à négocier, renégocier un certain nombre de choses, on va dire, ah oui, Kessler, c'est du sérieux. Et Ida, je ne sais comment, ma voisine, ah oui, mais Ida, c'est moins sérieux. Enfin, alors d'un seul coup, il y a une sorte de...
C'est ce que
tu disais, il y a une sorte de hiérarchie entre ceux qui sont experts, qui vont dire quelque chose de solide, et puis ma voisine qui va faire un commentaire, pas forcément qui aura du poids. Et alors du coup, nous, notre parole là-dedans, c'est quoi ? On est des experts, pas des experts. Nous, on n'est pas des experts dans l'histoire. Donc, on se balade et on n'en sait pas plus. Moi, j'en sais pas plus que ma voisine. Simplement, j'ai fait le voyage un peu plus longtemps sur une question, mais il y avait ça. Et puis, du coup, il y avait aussi le désir de dire à un moment donné, donc au-delà de cette question d'experts et de pas d'experts, il y a une masse de gens aussi. Il y a un choral, en fait. Et il y a cette histoire de communauté qui apparaît.
Et l'idée aussi, par rapport à la communauté, l'idée aussi qui était de se dire, il faut qu'on soit vigilant au fait qu'on va commencer à parler des semences, et alors comment trouver un rapport avec l'auditeur qui fasse qu'à partir du moment où il a entendu parler semences, labellisation, Monsanto, il se dise c'est bon, il se met sur ses rails et ça roule. Et comment trouver quelque chose avec un sujet qui est quand même hyper d'actualité. Nous, on voulait un biais différent qu'on ne connaissait pas encore, mais on voulait un biais différent, mais en se disant, tiens, comment à un moment donné faire en sorte que l'auditeur... l'auditeur se mette... Un sujet, à partir du moment où il commence à tourner en boucle dans une société, au bout d'un moment, il tourne en boucle, il fait système et on n'entend plus, en fait. Le changement climatique, tout le monde pense qu'il est au courant du changement climatique. Très peu de gens sont au courant, mais le discours tourne tellement en boucle que voilà.
Et là, c'était de remettre un peu tout le monde.
Et surtout de permettre à l'auditeur un dispositif qui lui permet d'être attentif. Mm-hmm. Et c'est vrai que si tu sais pas qui parle, là, t'es qui, toi ? Voilà. Du coup, ça...
On comprend en même temps. Enfin,
oui, on sent bien.
On voit plus ou moins.
On sent bien des niveaux de parole, mais je crois que ce serait. Oui, mais au niveau du Guy Kessler, ça pourrait être quelqu'un d'érudit. Paulus, celui qui est le vieux con de 60 ans. Je crois qu'on.
Oui, mais il y a aussi des jardins potagers qui ont été entamés, pas comme ces deux, trois dernières années à Bruxelles où ça fait boum, mais il y a 20, 30 ans.
Donc,
voilà, ça c'est aussi.
Mais c'était pour éviter l'étiquetage immédiat qui donne paf une grille de lecture.
Surtout qu'on avait notre philosophe Patrick Vivret, un philosophe c'est nickel, on le met, on l'égrène dans tout le documentaire.
Il donne le label
sérieux, intelligent, bien. Et on se disait, notre philosophe, il est magnifique et tout, mais on va le mettre à la fin. puis moi, parce qu'on n'a pas envie de rassurer ou de se rassurer que ce qu'on fait, c'est vraiment intelligent et sérieux.
Et que peut-être le poids aussi, peut-être aussi que le poids de la parole, enfin, les questions qu'on essaie d'aborder, il nous semblait qu'elles peuvent avoir plus de poids et être plus partageables si elles émergent d'elles-mêmes.
Oui, personnellement, je pense que vous avez fort bien fait, parce que on a le temps justement de soi-même avoir un cheminement de pensée, et puis voilà, d'entendre peut-être en conclusion quelque chose qui est plus théorisé. J'ai trouvé que c'était, de ce point de vue-là, la forme de votre documentaire correspond tout à fait à ce que vous expliquez, à la fois votre point de départ qui est un questionnement, une interpellation, plus que tiens voilà j'ai envie de faire quelque chose sur un sujet. Je trouve que ça se sent dans la forme, où on est un peu en zigzag, je vais dire, entre le côté outre le fait que on vous suit dans votre cheminement géographique à la recherche de lieux, etc. Vous êtes aussi dans des jardins où on entend les oiseaux, on parle de travailler la terre, on entend des choses très très concrètes sur la manière dont on fait les sélections de semences de manière traditionnelle, mais vraie tradition, je vais dire, pas tradition agriculture chimique, voilà. Et en même temps, suit une réflexion qui, elle, est placée plus sous l'angle politique. J'ai particulièrement apprécié d'entendre cette dame, je pense que c'était, je sais plus si c'était à Molenbeek ou à Moucron, qui disait, bien sûr, c'est aussi politique ce qu'on fait. Et on en a conscience, et peut-être qu'au départ, tous les gens qui y participent n'en ont pas conscience, mais oui, évidemment, c'est politique, c'est très concret, et en même temps, c'est politique.
Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Josine Cardon, qui eux, ils sont à Moucron, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont avec, en plus, toute la question sur les semences, qui sont sollicités, resollicités, la télé, les films et tout le bazar. Et c'est vrai qu'on a très nettement senti le basculement dans l'entretien quand on est arrivé sur cette question politique. Parce qu'elle, quand on est arrivé, c'était chouette, mais en même temps, elle a l'habitude, donc voilà, les semences, des milliers de boîtes. Voilà. Et puis, quand on est arrivé sur cette articulation du politique, là, on a bien senti que à la fois, elle était surprise, et en même temps, il y avait une articulation qui n'était pas sur lequel elle n'était pas si souvent que ça sollicité par les gens qui viennent lui rendre visite. Voilà.
Et alors pour terminer, peut-être un mot sur le choix musical, la musique qui. Mais d'abord dans le documentaire, est-ce que vous pouvez nous dire, présenter un peu la musique que vous présentez ?
Alors, la musique.
Alors moi je vais donner les noms et puis tu vas expliquer comment tu les as rencontrés peut-être. C'est Patricia et Osvaldo Hernandez Napoles du groupe Quilombo.
Voilà. Et alors en fait, il se trouve, on cherchait une musique pour le film et moi j'étais en train de me balader dans la forêt de Soignes et d'un coup j'entends de la musique. Et ils étaient en train de jouer dans la forêt. C'était absolument incroyable. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans. Et alors en plus, ce qui se trouve incroyable, c'est que cette musique, c'est une musique traditionnelle. C'est Colombien ?
Non, je ne sais pas.
Bon, sud-américaine, c'est bon. Et qui est en fait une musique qui est en fait un langage de village à village. On se passe des informations. C'est des appels de communauté à communauté. Alors quand on a entendu ça, alors moi j'étais avec mon téléphone, j'ai tout de suite enregistré. Et on a travaillé tout le montage avec la version téléphone, mais qui fonctionnait très bien. Et puis, voilà, on s'est dit quand même, on les a appelés, on voulait... voilà, et puis ils nous ont donné la version. Et finalement, on a pris la version studio, qui est un peu différente forcément de celle qui était en... Celle qui était en forêt avait son charme aussi, mais c'est vrai qu'elle était prise au téléphone, donc ça valait ce que ça valait. Mais, et donc voilà, ça tombait tellement pile. Enfin,
ah oui, un bon concours de circonstances.
Ouais, un bon concours de circonstances.
Avant qu'on l'écoute, je voulais vous dire que ça m'avait fort frappé aussi le moment où il y a cette superposition entre cette musique et je crois que c'était le sifflet d'un train. Alors qu'on venait d'entendre que finalement, aujourd'hui, c'est encore pire que sous le nazisme, où en fait, on a réussi à détruire la culture. Là, j'étais... Vraiment...
C'est pensé comme ça au niveau du montage aussi. Parce que c'est vrai qu'après, là pour le coup, si ces questions-là vous intéressent, il faut aller à Lyon au début juillet, à ces dialogues en humanité, parce que c'est une expérience, c'est par rapport à cette question de prendre un peu la mesure, on s'en rend compte parce que on est plus ou moins tous impliqués sur des choses, mais c'est quelque chose de tellement spécifique. Et c'est vrai que d'arriver dans ce lieu-là, quel que soit l'état dans lequel on y arrive, on repart en se disant « Ah, il y a des issues quand même ». Ça, c'est... Nous, chaque fois qu'on rentrait d'enregistrement, et même si avec Guy Kessler, avec certaines personnes, c'était assez grave, il y a des endroits où vraiment vous sentez que l'humanité n'a pas dit son dernier mot. Enfin, la belle humanité n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est...
Donc c'est ça aussi, cette musique qu'on va écouter.
Voilà, c'était donc la musique de Quilombo. L'heure a tourné. On arrive à la fin de cette émission. Un grand merci encore
merci à
Yves et Claire. Yves Robic et Claire Gatineau. Merci à Charlotte.
Merci.
Merci à Arthur, qui était à la technique. Et si vous voulez entendre le documentaire une autre fois, le conseiller, le recommander ou rencontrer les réalisateurs, donc Yves Lebic et Claire Gatineau, vous pouvez le faire donc ce vendredi 29 mai en soirée, puisqu'ils seront présents sur le terrain de la ZAD à Arun. Pour y arriver, vous pouvez prendre le train et descendre à la gare de Arun Sud, prendre le bus 64 jusqu'à l'arrêt Twyonink. Il y a aussi une piste cyclable. Et si vous voulez de plus amples informations, vous irez voir sur le site Arun avec h.luttepaysanne.be. Merci à tous nos auditeurs pour leur attention. À bientôt.